franceinter.fr.
Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, en écho au conflit social en Guyane, retour sur un autre mouvement de contestation qui a concerné les anti-françaises au début de l'année 2009. De janvier à mars, en mer des Caraïbes, un mouvement de grève sans précédent touche deux départements français d'outre-mer. La Guadeloupe d'abord, la Martinique ensuite. À chaque fois, le scénario est le même. Les gens descendent dans les rues de Pointe-à-Pitre, puis de Fort-de-France, et dénoncent tous la vie chère. 44 jours seront nécessaires pour sortir la Guadeloupe et la Martinique de cette crise. Car à mesure que les jours passent, la paralysie s'accroît. Un temps brisé, le dialogue social reprend. Mais dans les rangs de la population, la confiance se brise. Au bout d'un mois de grève, les négociations piétinent. Parmi les organisations syndicales, la colère monte. Et très vite, ce qui devait arriver arrive, la violence s'invite à son tour dans le débat. À la une de l'actualité nationale, les Antilles affichent désormais un tout autre visage, bien loin des habituelles cartes postales. Après le récit, pour revenir avec nous sur cette affaire, nous recevrons Elie Domota, syndicaliste guadeloupéen, secrétaire général de l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, porte-parole du collectif LKP. Il fut au cœur de toute cette affaire et il a participé aux négociations qui ont débouché sur l'accord de sortie de crise. Elie Domota sera avec nous en direct dans les studios de Guadeloupe Première à Pointe-à-Pitre que nous remercions pour leur accueil. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Philippe Duclos.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Mardi 20 janvier 2009. Depuis le début de la matinée, il règne sur l'île de la Guadeloupe une certaine agitation. Dans les rues de la capitale, Pointe-à-Pitre, un cortège de plusieurs milliers de personnes défile bruyamment. Certaines d'entre elles lancent des appels en créole au mégaphone, d'autres chantent, d'autres encore jouent de la musique. Il y a là des adultes, mais aussi des enfants. Au-dessus d'eux flottent plusieurs drapeaux d'organisations syndicales. Sur de grandes banderoles, on peut lire « Stop à la vie chère ». À mesure que le cortège avance dans la ville, les commerçants baissent leurs rideaux. Les employés verrouillent l'accès à leurs bureaux. On ferme également les portes des services publics. Ce matin, l'heure n'est pas au travail en Guadeloupe, elle est à la grève générale. À quelques mètres de là, sur le trottoir, deux touristes venus de métropole s'arrêtent et filment la scène. Après quelques instants, l'un d'eux s'exclame « C'est quoi ça encore? Un défilé pour le carnaval ?» Son ami lui répond « Non, non, on dirait plutôt une manifestation. » Puis le même homme ajoute en direction de la foule « Si vous voulez que la vie soit moins chère, commencez par aller travailler. » Rapporté par un journaliste de RFO, la scène interpelle, pour le moins. Au-delà de l'inculture manifeste de ce touriste, ses paroles en disent long sur l'incompréhension qui règne entre ceux qui viennent ici dépenser leur argent et la population locale qui tente, elle, de gagner sa vie. Contrairement à l'idée largement répandue en métropole, ici en Guadeloupe, malgré le soleil et les paysages de cartes postales, la vie est très dure. La situation est même encore pire sur l'île voisine de la Martinique. Dans les Antilles, en effet, avoir un travail ne permet pas forcément de se loger, de se nourrir et de vivre au moins de façon décente. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les salaires sont bas et qu'à contrario, les prix, eux, sont forts. Dans les supermarchés ou épiceries de l'île, par exemple, les boissons, yaourts ou pots de confiture se vendent presque deux fois plus cher qu'en métropole. Et comme en témoignent au micro de France Inter plusieurs Guadeloupéens installés en région parisienne, voilà plusieurs années que la situation s'aggrave sur l'île.
Je vis ici, ça fait plus d'une quarantaine d'années, mais quand je vais en vacances là-bas, je me dis c'est pas possible, comment ils peuvent vivre dans ces conditions.
Le problème, c'est juste l'alimentation, c'est cher, tout est cher, la vie coûte cher là-bas. Quand je vais faire mes courses, c'est 100 euros pour deux courses, alors qu'ici, on peut avoir un caddie plein pour 100 euros de courses. Là, c'est vrai quand même, c'est le double de la France. Les salaires ne sont pas plus élevés. On est moins quand même que ça change un peu, que les salaires augmentent.
Eh bien, je pense que c'est tout à fait normal pour le peuple se révolter, hein. Parce que ça fait longtemps, ça dure. Très peu de travail, beaucoup de chômage. Le taux de chômage est vraiment important en Guadeloupe. Et puis, il faut que l'État commence à se réveiller. Hein.
Et si pour l'instant le gouvernement ne s'est pas encore réveillé au sujet de la Guadeloupe et plus largement sur le cas des Antilles, sur place en revanche, un collectif monte au créneau et dénonce la situation. Il s'est baptisé le Comité contre l'exploitation outrancière, qu'on connaît surtout ici sous son acronyme LKP. À sa tête, on trouve un syndicaliste qui depuis peu s'est métamorphosé en leader du mouvement contre la vie chère sur l'île. Cet homme a 42 ans, une petite moustache et porte souvent des jeans et des t-shirts rouges déformés. Il s'appelle Elie Domota. Présent aujourd'hui pour manifester dans les rues de Pointe-à-Pitre, il se fait le porte-parole des principales revendications du LKP. Pour commencer, explique Domota, le collectif réclame une baisse de 50 centimes du prix des carburants. Ensuite, ajoute-t-il, nous demandons une transparence sur la formation de ces mêmes prix à la consommation. Et il conclut, nous voulons une hausse du salaire minimum de 200 euros pour améliorer la vie des gens et leur permettre de vivre dignement. À ses côtés, les manifestants applaudissent. Aux journalistes locaux qui l'interrogent sur son engagement, Elie Domota précise que le peuple guadeloupéen mène un combat paisible. Paisible, oui, mais déterminé. Joint plus tard au téléphone par France Inter, il s'explique sur les suites possibles du mouvement.
Nous sommes traités avec le plus grand mépris de la part de l'État, de la part des collectivités et de la part des organisations patronales. C'est ça la vérité. Donc aujourd'hui, le peuple guadeloupéen l'a compris. Si on veut que la paix sociale existe dans ce petit pays-là, il faut qu'il y ait un équilibre social, il faut qu'il y ait une justice sociale. Nous disons très clairement que nous n'allons pas passer notre temps à marcher dans les rues. Dans un avenir proche, nous serons obligés d'appeler à la mobilisation totale et générale et au blocage de la Guadeloupe.
Si Elie Domota utilise un ton volontairement ferme, voire menaçant, c'est parce que la Guadeloupe vit un intense bouillonnement social depuis plusieurs semaines déjà et que pour l'instant, l'État refuse d'engager le moindre dialogue. Tout commence en fait un mois plus tôt, début décembre 2008, lorsque certains syndicats de l'île dénoncent un fléau qui ravage le budget des familles, le prix des carburants. Aux Antilles, il faut savoir que l'approvisionnement des stations-service en essence et en diesel est assuré par une société unique, la SARA, filiale du géant pétrolier Total. De fait, la situation, tant en Guadeloupe qu'en Martinique, est celle d'un monopole qui, selon les syndicats, favorise les profits de celui qui fixe les prix et les taxes, à savoir l'État. Monopole qui avantage aussi l'entreprise qui vend le carburant à un prix supérieur au cours normal, on parle ici du groupe Total. Pour de nombreux Guadeloupéens, ce système de profit est abusif. Ils réclament des explications de la part de l'État. Et comme seule réponse, l'administration botte en touche et affirme qu'il s'agit là de simples dysfonctionnements dans la méthode du calcul. La réponse est vague et forcément, elle ne convainc personne. Alors les habitants commencent à manifester, avec pour objectif d'obtenir plus de transparence sur les prix à la consommation en Guadeloupe. Et c'est bien sur cette base qu'un large front de syndicats, d'associations et de partis politiques se structure. Comme plateforme de revendication, ils créent le comité LKP. Ce mardi 20 janvier 2009, la grande manifestation de Pointe-à-Pitre, organisée sous l'égide du LKP, marque donc le début de la grève générale. Et elle connaît un succès considérable. On estime que ce jour-là, plus de 10% des Guadeloupéens descendent dans la rue pour dénoncer la vie chère. À cela s'ajoute la fermeture pour une durée indéterminée des 115 stations-service de l'île. Impossible donc de s'approvisionner en carburant. Face à l'ampleur de cette mobilisation et la menace d'une pénurie d'essence, la préfecture accepte enfin de négocier. Le LKP enregistre ici sa première victoire. Elle est d'autant plus importante que les membres du collectif obtiennent que les pourparlers avec les représentants de l'État soient retransmis en direct à la télé. Et quatre jours plus tard, le 24 janvier, alors que le mouvement de grève se durcit un peu partout sur l'île, la chaîne guadeloupéenne Canal 10 interrompt ses programmes. Pendant plusieurs heures, les Guadeloupéens peuvent ainsi voir et entendre Elie Domota et les porte-paroles du LKP face au préfet, accompagné pour l'occasion de ses directeurs de cabinet. Certes, l'échange est cordial, mais les propos restent engagés. Dans les jours qui suivent, le mouvement de contestation continue de prendre de l'ampleur. Il touche désormais l'éducation et le secteur de l'hôtellerie. Dans les villes, la distribution d'eau potable est perturbée. Ailleurs, dans l'île, on ressent aussi les premiers effets de la pénurie d'essence. À la préfecture, on craint désormais que la situation ne dégénère. Alors, les autorités réquisitionnent 13 stations. Sur place, les gendarmes deviennent le temps d'un jour agents de sécurité. Ils contrôlent l'accès au carburant et veillent à ce que les véhicules prioritaires et professions d'urgence comme les médecins puissent faire le plein. Présente sur place, la reporter de France Inter, Marie Bernardo, raconte.
La radio et un casse-croûte pour patienter. Ils attendent tous en plein soleil. Une heure avant l'ouverture de la station essence, une soixantaine de voitures s'est déjà agglutinée sur le bord de la route. Une dizaine de policiers fait le tri.
Votre profession ?
C'est médecin.
Vous avez une carte professionnelle ?
J'ai une confirmation de mon chef du service qui m'a écrit ça.
Si votre chef de service a fait une attestation avec votre pièce d'identité, votre carte professionnelle, il n'y aura pas de problème. Vous participez à une priorité.
Priorité notamment aux véhicules sanitaires, mais certains réussissent à passer entre les mailles du filet. Comme Léo, il commence à trouver le temps long.
Je suis parti depuis à 3h du matin. Bon, ça fait deux fois que je fais la queue comme ça, vous voyez. J'espère qu'on va trouver une solution rapidement à ça, parce que les gens vont finir par exploser, on ne peut plus tenir là. Hein.
Au même moment, à la table des négociations, les échanges entre le LKP et l'État piétinent. Chacun campe sur ses positions et refuse pour l'instant le moindre compromis. Au micro, Elie Domata s'impose comme un orateur de talent. À chaque fois qu'il prend la parole, il présente de manière très convaincante ses dossiers et il n'hésite pas à corriger les représentants de la préfecture lorsque ceux-ci se montrent, disons, imprécis dans leurs déclarations. En l'espace de quelques jours, le syndicaliste de 42 ans devient le principal interlocuteur du mouvement qui, rappelons-le, paralyse dorénavant toute l'île. À 6700 km de là, à Paris, à l'Assemblée, deux députés des départements d'outre-mer, Victorin Lurel et Christiane Taubira, se mobilisent. Chacun leur tour, ils prennent la parole pour déplorer, je les cite, le silence inquiétant de l'État face à la situation en Guadeloupe. Pressé et contraint, le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer, Yves Jégot, promet d'ouvrir des négociations thème par thème dans un délai de 4 semaines. Sur place en Guadeloupe, dans les rues de Pointe-à-Pitre, les jours passent et la mobilisation ne faiblit pas. Au contraire, le 30 janvier, ils sont encore plusieurs dizaines de milliers, 65 000 selon les organisateurs, à défiler. Un record pour les Antilles. Pour l'occasion, les grands médias nationaux font enfin le déplacement. Et ainsi, ce vendredi soir, la grève générale en Guadeloupe s'impose comme l'un des principaux titres de l'actualité.
France Inter.
C'était déjà la grève avant et c'est toujours la grève après. Après 10 jours de grève générale contre la vie chère, l'île est à peu près complètement paralysée. Ce n'est pas la pénurie d'essence qui va arranger les choses. Le mouvement social lancé par l'ensemble des syndicats, rejoint désormais par les patrons des stations-service, appelle aujourd'hui une solution d'urgence. Sur place, Antoine Perrin.
Impossible de se déplacer, travailler, même se nourrir est devenu compliqué. Les 115 stations-service ne délivrent plus une seule goutte d'essence depuis 10 jours. Du coup, les routes sont désertes et les transports en commun quasi inexistants. Seuls les services d'urgence fonctionnent. Les écoles, magasins et supermarchés sont également fermés. Acheter de la nourriture est un casse-tête pour la population qui privilégie les commerces de proximité dont les stocks se vident jour après jour.
Sur l'île, l'économie tourne au ralenti et très vite, c'est toute l'image du département qui en prend un coup. Les compagnies de croisière boudent le port de Pointe-à-Pitre, certains tours opérateurs annulent leur séjour sur l'île. Pas question en effet de prendre des risques pour le confort et la sécurité de leurs clients. Conséquence, les professionnels du secteur du tourisme annoncent un chiffre d'affaires en baisse de 15 à 30%. De son côté, le MEDEF, l'organisation patronale, estime le manque à gagner depuis 10 jours à plus de 180 millions d'euros. À l'hôtel Matignon, le Premier ministre François Fillon examine les rapports qui arrivent à son bureau. Le chef du gouvernement est inquiet, car il le sait. D'autres mouvements sociaux sont prévus à Paris dans les prochaines semaines. Et si ce qui se passe actuellement en Guadeloupe venait à faire tache d'huile avec la contestation en métropole, et si à force de s'enliser, le conflit social qui frappe cette île des Antilles venait à basculer dans la violence? L'État est donc au pied du mur. Le gouvernement doit réagir, Paris doit reprendre l'initiative et relancer le dialogue sur place. Oui, bien sûr, mais comment ?
Veille à soleil, à dans l'ombre là, éteins étoiles là dans l'ennui, là. La terre peut trembler, l'orage peut gronder, mais tant pis, si vous pouvez partir. Ferme porte à l'homme ou si ça te plaît. Ferme porte.
Dimanche 1er février 2009, aéroport de Pointe-à-Pitre. Voilà 11 jours que la Guadeloupe vit au rythme de la grève générale, 11 jours que la situation reste très tendue et que le dialogue ne passe pas entre les membres du collectif de lutte contre l'exploitation outrancière, le LKP, emmené par Elly de Motta, et les représentants de l'État, le préfet Nicolas Desforges en tête. En milieu de journée, un avion Falcon, aux couleurs de la République française, se pose en bout de piste. À son bord, le secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer, Yves Jégo. C'est lui, l'homme que le gouvernement a mandaté pour dénouer la crise qui secoue les Antilles. Dans le même temps, depuis Paris, le Premier ministre, François Fillon, appelle les habitants de l'île, je le cite, au bon sens et à la reprise du dialogue républicain. Délocalisation forcée pour certains, voyage indispensable pour d'autres, la venue d'Yves Jégo en Guadeloupe suscite de nombreux commentaires, avec bien sûr cette question. Il ne vient pas les mains vides, enfin, on l'imagine. Mais qu'apporte le secrétaire d'État dans ses valises pour reprendre en main les négociations? Réponse d'Yves Jégo.
Je suis venu avec un certain nombre de propositions à faire sur les questions de pouvoir d'achat. Je suis venu avec des réponses concrètes, avec des chiffres, avec des engagements du gouvernement. Mais je souhaite que les premiers jours de ce déplacement me permettent d'abord d'engager une très vaste concertation pour rencontrer tous azimuts celles et ceux qui souffrent, les responsables politiques, les responsables syndicaux, et aussi pour pouvoir vérifier que les mesures que nous allons financer iront bien directement là où elles doivent aller, c'est-à-dire dans la poche de ceux qui sont le plus en difficulté.
Sur place, à la sous-préfecture de Basse-Terre, Yves Jégo s'entretient avec le préfet de la Guadeloupe, Nicolas Desforges. Les deux hommes en sont conscients, la situation à laquelle ils font face a déjà atteint un seuil critique. D'autant plus que l'essence et les denrées alimentaires manquent un peu partout sur l'île. L'objectif est donc d'éviter à tout prix que la situation ne dégénère. Pour cela, le secrétaire d'État axe dans un premier temps son travail sur l'approvisionnement en carburant. Dans les jours qui suivent, Yves Jégo fait une série de plusieurs annonces. Tout d'abord, 25 stations-service vont rouvrir sur l'île. Ensuite, il affirme avoir obtenu un premier engagement clair et chiffré de la grande distribution afin qu'elle baisse de 10% le prix de 100 produits de première nécessité. Toujours selon le représentant du gouvernement, le revenu de solidarité active, le RSA, sera applicable sur l'île dès cette année alors que la mesure ne doit intervenir en métropole que l'an prochain. À noter également qu'après discussion avec l'État, plusieurs compagnies aériennes acceptent de mettre à disposition 40 000 billets aller-retour Pointe-à-Pitre-Paris à des prix très accessibles pour les Guadeloupéens les plus modestes. Voilà de quoi, pense le ministre, faire face à l'urgence. Le 5 février, Yves Jégot rencontre pour la première fois Élie de Motta et les membres du LKP. Les échanges restent courtois malgré une atmosphère tendue. Et 24 heures plus tard, sous la houlette du secrétaire d'État, s'ouvrent enfin les premières négociations quadripartites entre le LKP, le patronat, les collectivités territoriales et les représentants de l'État. Sur l'île, on s'interroge. Les discussions ont-elles une chance d'aboutir ? Le chemin semble encore long, d'autant qu'au même moment, sur l'île voisine de la Martinique, les syndicats votent eux aussi la grève générale. Pourtant, bon an mal an, dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 février, après plusieurs jours de travail acharné, une nuit blanche et plus de 20 heures de négociations d'affilée, un terrain d'entente est trouvé sur 131 des 132 points de discussion, autrement dit presque tout. Yves Jégot et Élie de Motta sont désormais à deux doigts d'obtenir un préaccord qui mettrait fin à la grève générale en Guadeloupe. Parmi les engagements pris par le secrétaire d'État, il y a notamment la hausse de 200 euros des bas salaires. Revendication centrale des grévistes, des mesures très sensibles. En effet, pour l'accepter, le patronat demande à l'État une exonération de charges. Une mesure qui pourrait coûter plus de 100 millions d'euros aux finances publiques. Toujours est-il que lorsque syndicalistes et représentants de l'État se quittent le lundi 8 février au matin, nombreux sont les observateurs qui estiment qu'on s'oriente vers une sortie de crise dans le dossier guadeloupéen. Mais coup de théâtre. Quelques heures plus tard, dans la soirée du lundi 8 février, les syndicalistes apprennent par téléphone qu'Yves Jégot, le secrétaire d'État à l'Outre-mer, a quitté l'île dans la plus grande précipitation. Plusieurs membres du LKP se présentent à l'aéroport, puis à la préfecture, et demandent des explications. Sur place, les grilles restent fermées. Le chef du cabinet du préfet, Pascal Gauthier, refuse l'accès à Élie de Motta.
Monsieur de Motta, bonsoir. Je sais que vous avez demandé à être reçu par monsieur le préfet. Le préfet n'est pas là.
Là ? Nous ne sommes pas des chiens.
Non, mais bien sûr.
D'accord. Bien sûr. Oui, vous reconnaissez qu'on n'est pas des chiens.
Mais bien sûr.
On avait rendez-vous et on me dit que la réunion est annulée. La moindre des corrections, ce serait que vous, représentant de l'État, puissiez recevoir le collectif pour qu'on puisse savoir ce qui se passe.
Ce que je vous dis, monsieur de Motta.
Vous ne me parlez pas à travers d'une grille. Vous nous recevez ou vous nous ne recevez pas.
Nous assistons aujourd'hui à du mépris, à une injure. C'est insupportable. Nous vous le disons aujourd'hui. Mais sachez-le, nous vous le disons, ce mépris-là, ce mépris colonial que vous avez vis-à-vis de nous, on n'acceptera plus. On prendra les dispositions qui s'imposent tout simplement. Nous, on ne veut rien entendre. Il y avait un rendez-vous. Le pays est à nous. On va faire ce qu'il y a à faire. Et vous verrez. Mais le mépris vis-à-vis des travailleurs guadeloupéens et du peuple guadeloupéen, nous en avons marre.
De retour à Paris, Yves Jégot s'entretient avec le Premier ministre François Fillon. Selon plusieurs journalistes, l'échange entre les deux hommes aurait été très houleux. Dans la foulée, le secrétaire d'État à l'Outre-mer s'exprime sur France 2 et là. Face aux questions du journaliste Laurent Delahousse, il fait machine arrière sur l'accord des 200 euros.
Est-ce que quand vous avez été sur place, lors des discussions, vous avez fait oui ou non des promesses, notamment sur les bas salaires ?
Mais je n'ai jamais fait de promesses sur l'augmentation des bas salaires, c'est pas un ministre qui augmente les salaires dans une entreprise.
Dans les jours qui suivent, en Guadeloupe, la colère monte. Dans les rues de Pointe-à-Pitre, le mouvement se durcit. Une grande partie de la population considère le départ du secrétaire d'État Yves Jégot comme une trahison. À l'appel du collectif LKP, se déroulent donc de nouvelles manifestations. Désormais, les gens défilent et chantent « La Guadeloupe, c'est à nous, la Guadeloupe, c'est pas à Yo ». Mais qui est donc ce Yo ? S'interrogent les journalistes. S'agit-il de la métropole, de l'État ? Ou bien s'agit-il des blancs de l'île, ce qu'on dénomme les béquets, qui sont pour la plupart de grands propriétaires terriens ? Une chose est sûre, la situation sur place est explosive. Et en l'espace de quelques heures, la revendication identitaire s'impose au cœur du débat. Dans le cortège, une habitante de l'île, exaspérée, prend le micro.
Si vous êtes guadeloupéen, on vous demande tout simplement de dire non à la souffrance. Les produits sont trop chers, baissez les prix, merde. On ne veut pas la guerre, on veut de l'ordre en Guadeloupe. J'ai une petite fille chez moi, j'ai mes enfants qui m'attendent. C'est pas par bonheur que je suis là, c'est parce que mon pays souffre et que j'en ai marre. Marre de l'exploitation, marre de l'injustice. Il faut nous foutre la paix et nous donner la justice en Guadeloupe, la vraie justice. La justice qui nous donnera de grandir et d'être aussi beau qu'on était autrefois. On a perdu nos valeurs, on a perdu notre dignité, on veut la retrouver. Qu'on arrête de nous truander, qu'on arrête de nous couillonner. Alors si la justice française est de notre côté, qu'elle mette les choses en ordre en Guadeloupe. Il faut qu'on dénonce toutes ces saloperies. Foutez-nous la paix. La paix, c'est tout simplement le bonheur qu'on veut.
Par communiqué de presse, le Premier ministre François Fillon tente de calmer le jeu et de dédouaner l'État. Il affirme que le gouvernement ne peut pas se substituer aux partenaires sociaux dans cette affaire. Bien. Alors quoi, Yves Jégoud est allé trop vite? Il a pris des engagements qu'il ne pourra pas tenir? Le préfet de la Guadeloupe, Nicolas Desforges, a lu quelques jours plus tôt une lettre signée de la main du secrétaire d'État, lettre dans laquelle Yves Jégoud s'engageait sans nuance pour l'augmentation des bas salaires de 200 euros. Après un séjour de 48 heures à Paris, le secrétaire d'État, justement, revient en Guadeloupe. Mais cette fois, il arrive les mains vides. Et il le sait, le comité du LKP ne fera aucune concession. Pourtant, dans les jours qui vont suivre, ce ne sont pas les négociations qui vont faire l'actualité en Guadeloupe. Non. Dans la nuit du 17 février au 18 février, c'est un drame qui va bouleverser toute l'île.
France Inter.
On peut parler d'un tournant dans le conflit social qui paralyse la Guadeloupe. Depuis un mois, il y a eu un mort cette nuit à Pointe-à-Pitre. La victime est un syndicaliste qui a été tué par une balle tirée depuis un barrage. On l'a appris dans la matinée après plusieurs heures de pillage, d'incendie et d'affrontement entre des groupes de jeunes et les forces de l'ordre. Mais les forces de l'ordre ne sont pas impliquées dans le décès qui vient de survenir, les témoins le disent.
L'homme tué en pleine rue s'appelait Jacques Binot. Il rentrait chez lui après un meeting. Il circulait à bord de son véhicule lorsqu'à proximité d'un barrage tenu par des jeunes encagoulés, il a reçu une balle mortelle. À l'annonce de son décès, l'émotion sur l'île est considérable et on craint désormais l'embrasement. Pendant plusieurs jours, l'angoisse monte parmi la population. La Guadeloupe va-t-elle être de nouveau le théâtre d'affrontements sanglants comme ce fut le cas en mai 1967 ? Un épisode encore ici gravé dans toutes les mémoires et qui, rappelons-le, avait fait plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés. À Paris, Nicolas Sarkozy tente de calmer le jeu et annonce qu'il va organiser des états généraux pour régler la situation aux Antilles. D'autant que sur l'île de la Réunion et en Nouvelle-Calédonie, le ton monte également. Dans les rues de Pointe-à-Pitre, en tout cas, l'ambiance reste pour le moment très tendue. Comme en témoigne l'un des envoyés spéciaux de France Inter, Sébastien Paour.
Les voitures sont retournées, calcinées sur la route, les réverbères sont tombés, les rochers sont à même la route, les vitrines sont brisées, les abribus également. On trouve des valises, des poubelles renversées, incendiées. Bref, sont effectivement des scènes démodées. D'ailleurs, hier soir, à Gosier où nous sommes, le trafic routier était un trafic qui était composé de deux voitures aux plaques d'immatriculation retirées, qui roulaient tout feu éteint, qui traversaient, qui passaient devant les hôtels de touristes dans lesquels sont retranchés littéralement les touristes. Les hôtels sont transformés en camps retranchés pour éviter tout affrontement. Les lumières sont éteintes et on voit passer devant l'établissement. J'en ai vu hier soir des voitures avec deux jeunes gens, manifestement d'une vingtaine d'années, qui ont des armes, semble-t-il, des fusils tout au long, je dirais, enfin, possible de dire s'il s'agit de fusils de chasse ou de fusils à pompe, comme on en a entendu parler à Pointe-à-Pitre, toujours est-il qu'ils sont armés, qu'ils n'ont pas de plaque d'immatriculation, qu'ils roulent tout feu éteint, qu'ils traversent la ville et qu'ils sèment la terreur dans toute la ville.
En réaction à cette violence urbaine, la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, annonce l'envoi sur place d'un renfort de 4 escadrons de gendarmes mobiles. 20 février, après plusieurs jours d'une extrême tension, le calme revient progressivement dans les villes de Guadeloupe. Voilà déjà un mois que les habitants de l'île vivent au rythme de la grève générale. Malgré leur détermination, beaucoup d'habitants s'interrogent. Le conflit va-t-il encore durer? Comment faire pour tenir? Au même moment, à Paris, se déroule une grande manifestation de solidarité pour les Antilles. De son côté, le LKP annonce la reprise des négociations avec les représentants de l'État. Et ainsi, au fil des jours, les échanges se multiplient, on se rapproche enfin d'un accord. Signe d'un retour progressif à la normale, d'ailleurs, la radio et la télévision des Outre-mer, RFO, reprend ses programmes. Pour accélérer les débats, Matignon propose même la mise en place immédiate d'un revenu supplémentaire temporaire d'activité de 80 euros pour les travailleurs les plus précaires de Guadeloupe. Et le 4 mars, après deux nouvelles semaines de négociations, le LKP, le préfet, signe un accord appelant à la reprise de l'activité normale. Celui-ci porte le nom d'accord Bino, en hommage aux syndicalistes tués durant le conflit. Et il inscrit noir sur blanc l'augmentation des salaires de 200 euros. Partout en Guadeloupe, c'est le soulagement. L'heure est désormais au sourire et aux poignées de main.
En créole, le speaker annonce à la foule que l'accord est conclu. Des centaines de personnes présentes lors des longues soirées de négociation laissent éclater leur joie. Au premier rang, guettant la sortie des leaders du LKP, Leïla n'a qu'un mot à la bouche.
Historique parce qu'il faut se lever contre toutes les discriminations, contre la profitation gratuite, pour mieux bâtir une nouvelle Guadeloupe plus équitable. C'est ça surtout qui est important.
Dehors, les partisans du LKP font la fête alors que le préfet repart à Basse-Terre en hélicoptère.
Pour le préfet !
Gilles Gallinaro, Richard Place, France Inter.
La grève en Guadeloupe est donc terminée. Dans la foulée, le 14 mars, la Martinique signe elle aussi un accord de sortie de crise. Ce qui marque la fin du conflit social dans les Antilles. L'épisode aura duré 44 jours et aura profondément marqué ses habitants. Mais qu'en est-il du mal profond, de ce sentiment d'abandon, d'injustice et d'inégalité que dénoncent les habitants de ces deux départements d'outre-mer? Se sont-ils enfin dissipés? Nous allons voir avec notre invité dans quelques minutes. La situation aujourd'hui est encore bien loin de satisfaire les espoirs et les revendications de chacun dans les Antilles.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la grève générale en Guadeloupe en 2009 avec notre invité Elie Domota, secrétaire général de l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe et porte-parole du collectif LKP. Il fut au cœur de toute cette affaire et il a participé aux négociations qui ont débouché sur l'accord Bino, donc le 4 mars 2009, accord qui a mis fin à la grève générale sur l'île de Guadeloupe. Bonjour Elie Domota.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en direct dans les studios Guadeloupe Première. À l'écoute de ce récit, on ne peut s'empêcher de penser au mouvement de lutte sociale en Guyane. Est-ce qu'il y a des points communs entre ce mouvement d'aujourd'hui et le vôtre en 2009?
Oui, je crois que les racines du mal sont les mêmes. Et les revendications qui sont posées en Guyane, peut-être différemment, trouvent leur origine dans cette situation que je qualifie de domination coloniale. Les rapports entre la France et les régions ultra-périphériques ou les départements français d'outre-mer, ou DFA comme on nous appelle, n'ont pas bougé depuis la société de plantation. Et toutes les politiques publiques mises en œuvre n'ont jamais eu pour effet de développer ces différents pays, ces îles et ces différents pays au bénéfice des gens qui y habitent, mais de promouvoir une certaine catégorie ou bien de promouvoir les intérêts de la France et non ni de la Guyane ni de la Guadeloupe. Donc les racines du mal sont les mêmes et trouvent leur origine dans les rapports coloniaux qui existent entre la France et la Guyane et la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, et la Calédonie, etc.
C'est-à-dire que ce sont à la fois de votre part des revendications économiques et identitaires, il y a les deux?
Tout à fait, tout à fait. Vous savez, les revendications ont démarré en Guadeloupe sur les prix exorbitants des carburants, le pouvoir d'achat, les prix des marchandises de première nécessité. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans les discussions, dans les négociations, on voit bien qu'il y a non pas des erreurs stratégiques ou des retards de développement, mais une situation qui est organisée pour que nous soyons dans cette situation-là. Et donc, à un certain moment, eh bien, ce pose la question de l'émancipation sociale, de la souveraineté, de l'émancipation nationale, même si cela n'a jamais été dit de cette façon-là. Et je crois que c'est la même situation que vivent les Guyanais aujourd'hui. Des accords ont été proposés, des accords seront sûrement signés, mais au final, l'État cherche toujours à faire en sorte que on fait semblant de changer, mais en final, on ne change absolument rien. Et on l'a vu notamment au niveau de la campagne électorale de Monsieur Hollande en 2012, Monsieur Victorin Lurel et puis tous les socialistes, enfin tous les opposants à Monsieur Sarkozy ont fait campagne entre guillemets en utilisant les revendications du LKP et arrivé au final, les lois qui ont été mises en œuvre, que ce soit sur le carburant, que ce soit sur la vie chère, notamment par Monsieur Lurel, n'ont jamais répondu aux préoccupations qui ont été posées dans le cadre des accords signés avec le gouvernement Sarkozy. Donc, en fin de compte, on fait semblant, mais en fin de compte, on fait en sorte qu'on soit toujours dans la même situation de domination.
Droite comme gauche.
Si j'ai bien droite compris. Comme gauche, droite D'accord. comme gauche. Parce que vous savez, je prends un petit exemple tout simple. Nous avions obtenu de M. Jégot, dans la loi que M. Jégot a fait sortir le 27 mai 2009, la LODEOM, il était prévu un décret en Conseil d'État pour encadrer les prix de première nécessité. Après le départ de M. Jégot, Mme Planchard n'a jamais mis en œuvre ce décret. Et lorsque M. Hollande est arrivé au pouvoir, M. Lurel, dans sa fameuse loi de régulation économique dite de Vichère, la première chose qu'il a faite, c'est de supprimer cet alinéa qui pouvait encadrer les prix de produits de première nécessité. Et il a inventé un dispositif qui fait la part belle aux multinationales, aux importateurs, aux distributeurs. Donc, en fin de compte, avec la pression populaire, on fait semblant. Et une fois que la pression retombe, eh bien, on remet la situation comme elle était, une situation où c'est la profitation qui prédomine.
On va revenir au mouvement de 2009. Je vais vous poser une question, même si dans ce que vous venez de dire, il y a déjà des éléments de réponse, mais allons plus loin. Pourquoi ce conflit a-t-il duré aussi longtemps? Et la question corollaire, c'est qui selon vous, est responsable?
Vous savez, lorsque les questions sont posées, on ne nous prend pas au sérieux. Le mouvement a démarré réellement le 16 décembre. Nous avons demandé audience au préfet, au sous-préfet Renouf. Il a refusé de nous recevoir, donc nous lui avons dit que nous allons marcher autour de Pointe-à-Pitre tant qu'il ne nous recevra pas. Au bout de 3 tours de Pointe-à-Pitre, puisque ça gênait tout le monde, il nous a reçus simplement pour nous dire qu'il nous reçoit par civilité, mais qu'il n'a rien à nous dire. Donc nous lui avons demandé audience auprès du préfet, et le lendemain, le 17 décembre, c'était un mercredi, nous sommes allés à Basse-Terre. Nous avons marché deux fois dans la ville et vers 18h30, le préfet a refusé de nous recevoir, nous disant qu'il était dans le Noël des enfants du personnel de la préfecture. Et c'est à ce moment-là que la décision de la grève générale a été prise devant le portail de la préfecture. Et en fin de compte, Même quand nous avons, pendant toute cette période-là, envoyé des préavis à toutes les institutions, toutes les collectivités, aux services de l'État, aux organisations patronales, personne ne nous a répondu. Vraiment, personne ne nous a répondu parce qu'en fin de compte, ce n'est pas leur tasse de thé. Il y a 8000 kilomètres, il est vrai, quand il y a le feu au château, on se fout un peu de l'écurie. Donc, tout le monde s'en fout. Et on se dit, de toutes les façons, ça fait une étincelle et puis l'étincelle va se calmer et puis ça va s'arrêter. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc, si les négociations avaient débuté dès le début sur les plateformes qui avaient été déposées, on se pose la question si le mouvement aurait pris cette ampleur.
On vous sentait vraiment, on l'a vu dans le récit, très en colère lorsqu'à l'aéroport, on ne veut pas vous recevoir et vous dites, enfin, on ne parle pas à travers des grilles. Quoi. Qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que nous, on a arrêté l'extrait de récit là, on a compris que voilà, on n'avait pas été reçu. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, ce jour-là, c'était un dimanche après-midi. On était sur la route, on allait rencontrer Monsieur Gigot pour la signature officielle de l'accord sur les salaires, puisque il nous avait proposé de rester enfermés avec les organisations patronales toute la nuit et de ne ressortir qu'avec un accord. C'est ce qu'on a fait. Et vers 7h du matin, on a eu un accord. Monsieur Gigot nous a dit qu'il allait se reposer, qu'on se revoyait dans l'après-midi pour signer l'accord définitif sur les salaires vers 16h30. Et en redescendant pour aller à la préfecture, on apprend par téléphone, par plusieurs personnes, des élus notamment, que M. Gigot a quitté la Guadeloupe. C'était l'incompréhension la plus totale. On arrive devant les grilles, des militaires armés. Le préfet, il est pas là. Je le joins par téléphone. Il me dit, Monsieur de Mota, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne viendrai pas à la préfecture. Je ne sais pas ce qui se passe. Lui-même ne comprenait pas le départ de M. Gigot. Et c'est son chef de cabinet, le sous-préfet de Basse-Terre, Monsieur Gauthier, qui nous a reçus à travers la grille et nous avons fini par le convaincre de nous laisser rentrer. Il nous a reçus et c'était très particulier parce qu'il tremblait et il s'est mis à pleurer parce que lui-même ne comprenait pas ce qui se passait. Il s'est mis à pleurer. On lui a simplement dit qu'on voulait qu'il nous dise exactement ce qu'il savait. Il nous a dit que Monsieur Gigot était parti, qu'il avait été rappelé par Monsieur Fillon et que lui non plus ne comprenait pas. Personne ne savait ce qui se passait. Et donc, on a été reçus et après, on a quitté... On a quitté la sous-préfecture, la préfecture de Basse-Terre. Mais ce soir-là, je crois que il y avait sûrement une volonté de l'autorité de réprimer, parce que toutes les lumières de la préfecture étaient éteintes et il y avait des militaires armés partout. Et je crois qu'ils voulaient simplement, sûrement, qu'il y ait des débordements pour mieux nous réprimer et mettre le mouvement à mal dans un bain de sang. Et je crois que ce jour-là, on a été très intelligents pour maîtriser cette incompréhension.
Alors, une fois de retour à Paris, hein, quand il s'en va précipitamment, il rencontre François Fillon, il revient sur ses positions. On va l'écouter d'ailleurs, hein, lorsqu'il revient en Guadeloupe, quelques jours plus tard. Voilà ce que Yves Gigot déclare.
L'État mobilisera dès cette année près de 190 millions d'euros pour la mise en œuvre de tous les points évoqués dans les négociations. Il reste désormais une seule question non réglée, celle des salaires. Ici, comme partout dans notre pays, l'État ne saurait se substituer aux responsabilités des partenaires sociaux.
Votre réaction quand vous entendez ça 8 ans après ?
Oui, mais en fin de compte, Monsieur Gigot, quand il dit ça, c'est parce que dans le cadre des négociations, les patrons, notamment le MEDEF et la CGPME, et le MEDEF largement contrôlé par ce qu'on appelle chez nous les blancs payés et les béquets, ils ont quasiment posé une revendication dans le cadre de nos revendications, en disant à l'État, si vous voulez augmenter les salaires, donnez-nous de l'argent. Et c'est pour ça que Monsieur Gigot, dans son intervention, on parle que l'État ne peut se substituer parce qu'en fin de compte, il a très vite compris qu'il était face à un mur, notamment face au MEDEF et à la CGPME, qui refusait toute idée de négociation sur les salaires. Et d'ailleurs, l'accord qui sera signé le 26 février, c'est cet accord-là qu'on a appelé l'accord Bino, hein. L'accord du 26 février sur l'accord sur les salaires a été signé tout simplement parce que la CGPME et le MEDEF ont quitté la table des négociations. Autrement, jamais ils n'auraient eu cet accord-là, puisque la CGPME et le MEDEF ont refusé toute négociation sur l'augmentation des salaires et ont passé leur temps à torpiller les négociations. Et je ne suis pas, je ne serais pas étonné qu'au plus haut niveau, qu'ils aient quelque chose à voir avec le rappel de M. Gigot à Paris.
Parlez-nous des béquets auxquels vous venez de faire allusion. C'est évidemment un vieux problème, un problème d'ordre social et même humain dans les territoires d'outre-mer, dans les Antilles précisément.
Oui, vous savez, c'est la seule communauté qui n'ait jamais changé de couleur en 380 ans. Vous voyez, quand vous vous promenez dans les rues de Pointe-à-Pitre, vous voyez une mosaïque. Tous les gens, même dans les familles, sont de différentes couleurs. Et c'est une communauté qui n'a jamais changé de couleur depuis 380 ans. Et vous savez, à l'abolition de l'esclavage en 1848, contrairement à ce qui est écrit dans le décret d'abolition, qui dit que l'esclavage est une atteinte à la dignité humaine, eh bien, ce ne sont pas les victimes qui ont été indemnisées, ce sont les propriétaires d'esclaves qui ont été indemnisés. Donc, en fin de compte, on se rend compte avec, en regardant le fil de l'histoire, que nous n'avons jamais été réellement considérés comme étant des citoyens français, et tout a été mis en œuvre pour que cette domination coloniale, à travers la présence des premiers colons, soit toujours pérennisée dans le cadre du système politique, économique et social. Donc, en fin de compte, nous sommes 250 ans après l'abolition de l'esclavage, mais ce sont les héritiers de ces criminels, eh bien, qui sont toujours propriétaires de grands domaines, qui sont toujours propriétaires d'usines, qui sont toujours dans des conseils d'administration de banques ou de grandes entreprises. Et là, on se pose véritablement à une situation d'organisation raciale de la société. Et c'est pour ça que dans plusieurs interventions, on dit que la société guadeloupéenne, elle est construite sur des rapports de classe intimement liés à une hiérarchisation selon la couleur de peau. Et quand on prend l'histoire de la Guadeloupe, on l'égrène, on se rend compte qu'il y a un souci. Que même quand on déclare sur le papier qu'on est citoyen français, dans la réalité, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En 1802, vous savez, en 1794, première abolition de l'esclavage par la Convention, tous les Guadeloupéens sont citoyens français. Mmh. Et pourtant, en 1802, la République française, on est déjà en République, va rétablir l'esclavage du jour au lendemain, déchéance de nationalité. On sait ce que c'est, nous, la déchéance de nationalité. Et tous les Guadeloupéens les gens redeviennent esclaves en 1802. En 1848, la République abolit l'esclavage. La République, eh bien, elle indemnise les propriétaires d'esclaves et non les victimes, en l'occurrence des personnes réduites en esclavage. Et on peut prendre comme ça des exemples. Mai 67, vous l'avez dit dans votre commentaire, plus de 80, voire plus de 100 morts dans les rues de Pointe-à-Pitre, qui est indemnisé, qui est décoré, le préfet et les gendarmes, qui se retrouvent en prison, encore les Guadeloupéens. Donc, tous ces petits éléments nous montrent bien qu'il y a un souci. Et ce souci-là, mais il faut le nommer, c'est la domination coloniale. Et dans la colonie, le colonisé, il n'est pas considéré comme quelqu'un au même titre que celui qui est à 8000 kilomètres.
Et quels sont alors vos rapports avec ces propriétaires blancs qu'on appelle les béquets au quotidien? Comment ça s'organise tout cela?
Vous savez,
d'un point de vue humain,
fondamentalement, il est pour le vivre ensemble. Oui. D'accord? Donc personne n'a de problème avec quiconque. Oui. Mais ce que nous demandons, c'est que nous vivions dans une société juste et équitable, où les rapports sociaux soient équilibrés. Je vous donne un petit exemple. Comment peut-on comprendre que des héritiers de propriétaires d'esclaves soient propriétaires de plusieurs milliers d'hectares de terre? C'est une question qu'il faut se poser. Aujourd'hui encore, on continue à se poser la question. Est-ce que, au sein de la République, est-ce qu'au sein de la Constitution française, un criminel peut tirer bénéfice de son crime? Est-ce qu'un héritier de criminel peut tirer bénéfice du crime de ses parents? Voilà une situation. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on demande, c'est une remise en état des choses. Qu'on puisse réellement parler de la colonisation de l'esclavage, qu'on puisse parler de préjudice, qu'on puisse parler d'indemnisation, qu'on puisse parler d'une nouvelle répartition des terres et des richesses pour que justement le vivre ensemble ait un sens. Autrement, nous sommes dans une situation, dans une société qui pérennise la domination. Et pérenniser la domination ne peut aboutir qu'à des confrontations, qu'à la rébellion, qu'à la révolte.
Est-ce que la situation est la même en Martinique, compte tenu bien sûr des spécificités de chaque département, hein?
Oui, la situation, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, ou en Martinique, en Guyane, ou en Guadeloupe, la situation est la même, car les racines du mal sont les mêmes. Je fais un petit écart pour parler un peu de la Guyane. J'y suis déjà allé, je connais un petit peu. Quand vous voyez Kourou, Kourou que les Guyanais appellent gentiment Pretoria, Kourou la Blanche. Eh bien, vous avez au centre-bourg de Kourou, vous avez tout. Vous avez Internet, vous avez l'eau, vous avez l'électricité, vous avez les transports, vous avez tout. Vous faites 20 kilomètres hors de Kourou, Kourou, un pôle de technologie internationale, vous faites 20 kilomètres hors de Kourou, et là, vous tombez dans la misère, dans la précarité, dans la pauvreté, dans l'illettrisme, dans la drogue et dans la prostitution, etc. Mais c'est quoi? C'est pas la malchance? C'est pas la fatalité? Non, c'est pas un retard de développement, c'est un choix politique. Un choix politique pour créer une société à deux vitesses, en haut des personnes que vous portez, qui représentent un certain modèle, et en bas, la majorité de la population. Et ça, c'est symptomatique à tous ces pays-là. Vous allez à La Réunion, vous allez en Calédonie, vous allez à Mayotte, vous allez retrouver cette même organisation, une organisation de type colonial. Et ça, aujourd'hui, il faut y mettre fin. Et c'est pour ça, dans 8 ans après le mouvement du LKP, au niveau de l'UGTG, notre position est claire. La seule alternative aujourd'hui, c'est la décolonisation, l'émancipation à travers la souveraineté et l'indépendance nationale. C'est vers ça qu'il nous faut aller. Dans combien de temps, on ne sait pas, mais c'est vers ça qu'il faut aller, car les rapports de domination nous mène à quoi que ce soit.
Et d'ailleurs, on vous a bien entendu, bien compris. Mm-hmm. Je voudrais juste que vous me parliez aussi de Jacques Binot, car tout de même,
oui,
il y a eu un mort dans pendant ces grèves, et c'est dramatique, ne serait-ce qu'un mort, c'est un mort de trop pendant des grèves. Parlez-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Alors, écoutez, quand j'ai écouté le récit, là, ça m'a beaucoup touché, parce que je me rappelle, Jacques Binot est mort dans la nuit, je crois, du 18 au 19 février. Le préfet, M. Desforges, m'a appelé en pleine nuit. Enfin, j'ai su qu'il y avait eu un mort, et puis M. Desforges m'a appelé en pleine nuit pour me dire que ni les policiers, ni les jeunes, n'y étaient pour rien, qui menaient l'enquête, ils ne savaient pas ce qui s'était passé. C'est un syndicaliste de la CGTG qui travaillait aux impôts. Un cas très calme, qui ne cherchait de problème à qui que ce soit. Il revenait d'un meeting devant le palais de la Mutualité, très proche de la cité Henri IV où il a été abattu. Il y a un jeune qui a été arrêté, il est passé aux assises à deux ou trois fois. La dernière fois, c'était à Paris, et il a été relaxé. Enfin, si c'est le terme exact, je me rappelle pas du terme exact, mais il n'a jamais été reconnu coupable de ce crime. Aujourd'hui, le meurtre de Jacques Binot est un meurtre non élucidé. Alors.
Terminez, je vous en prie, terminez votre phrase.
Non, a été un meurtre non élucidé. Et encore une fois, ça marque cette longue succession de mouvements sociaux en Guadeloupe où il y a des morts. Parce que depuis 1910, 1925, 1930, 35, 52, 1967, tous les mouvements, il y a des morts. Et vous avez raison, ce sont des morts qu'on peut éviter, tout simplement, lorsqu'il y a des plateformes de revendication, lorsqu'il y a des contestations, au moins qu'on ouvre les négociations et qu'on écoute ce que les gens ont à dire et qu'on apporte les vraies réponses.
Concernant mes deux dernières questions, le mouvement de 2009, est-ce que la mesure phare, qui était celle de la hausse de 200 euros des bas salaires, est-ce que ça a été bien appliqué?
Alors, bien appliqué, non. Pas au compte, parce que vous savez, nous avons signé un accord avec un certain nombre d'organisations patronales, d'accord? Et les organisations CGPME, MEDEF, n'ont pas participé à ces négociations-là. Donc, dans toutes les entreprises adhérentes au MEDEF et à la CGPME, nous avons signé dans le cadre de grève, dans le cadre de protocole de fin de conflit, nous avons signé des accords qui reprennent l'accord Binot sur l'augmentation des bas salaires. Mais vous savez, c'est une lutte intense, car jusqu'à la journée d'aujourd'hui, il y a certains patrons chez lesquels nous avons signé qui n'appliquent pas correctement l'accord Binot. Donc nous sommes toujours, comme on dit chez nous, véatifs à l'application de l'accord Binot. Et notre objectif principal demeure l'ouverture de négociations collectives dans toutes les branches professionnelles, car aujourd'hui en Guadeloupe, seuls 20% des travailleurs sont couverts par une convention collective, alors que c'est 80% en France. Et deuxièmement, la généralisation de l'application pleine et entière de l'accord Binot dans toutes les entreprises de Guadeloupe.
Dernière chose, Elie Domota, très concrète, est-ce qu'un yaourt aujourd'hui, chez vous, coûte deux fois plus cher qu'en métropole?
Oui, vous savez, les prix n'ont pas réellement baissé. Sur la période de contestation, les prix ont baissé. Et avec la loi de régulation économique de M. Lirel, en fin de compte, on nous a pondu un bouclier qualité-prix où c'est seulement l'État et les importateurs et distributeurs qui négocient les prix des marchandises et les marchandises qui seront dans ce panier-là.
Très bien.
Les associations de consommateurs, oui. les syndicats ouvriers, pourtant membres de l'Observatoire des prix, sont exclus de toute discussion. Donc, en fin de compte, les prix n'ont pas baissé. Nous
Très
sommes
bien.
Dans une situation, je ne dirais pas similaire, mais au moins aujourd'hui, nous savons que ni l'État, et les patrons le savaient déjà, mais ni l'État, ni les élus de Guadeloupe ne vont dans le sens de la maîtrise du développement du pouvoir d'achat et de la maîtrise des prix au profit de la population.
Merci Lido Mota. Pardon de vous couper comme ça. Nous avons 7000 km qui nous séparent, mais je vous adresse mes salutations cordiales.
Merci beaucoup.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le conflit social aux Antilles en 2009, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles et surtout merci pour votre fidélité. Vous êtes 575 000 auditeurs à nous écouter chaque jour, tels sont les enseignements de la dernière vague de mesures d'écoute Médiamétrie. Merci pour votre fidélité.